Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans votre émission Histoire et Mémoire avec la Direction de l'Archéologie de la Ville et de Chartres Métropole. Alors aujourd'hui nous sommes en présence de Bruno Bazin, Bruno qui est responsable des fouilles et recherches menées sur le site de Saint-Martin-en-Val dans le quartier des Babours. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Alors avec Bruno c'est pas la première fois qu'on se rencontre et puis qu'on anime l'émission, on vous a présenté plusieurs fois le site du sanctuaire gallo-romain et donc vous pouvez réécouter les émissions sur Radio Grand Ciel bien FR ou même retrouver des petits archéos, le petit magazine de la Direction de l'Archéologie sur le site archéologique archéologie.chartres.fr. Et aujourd'hui Bruno, vous êtes venu avec Marjorie Maqueda. Bonjour Marjorie.
Bonjour.
Qui est donc restauratrice et conservatrice au sein de l'équipe archéologie. Alors avec Bruno, comme on disait, on a présenté plusieurs fois les découvertes liées au sanctuaire gallo-romain et puis les bâtiments qui sont autour, parce qu'il y a des fouilles qui sont régulièrement menées depuis 2010, c'est ça Bruno ?
Oui, c'est ça, oui.
Et la présence aujourd'hui de Marjorie va nous permettre donc d'apporter des connaissances aussi sur le métier et sur la manière de prélever et préserver certains matériaux que vous découvrez donc lors des fouilles. Alors Bruno, pour nos auditeurs, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots quel est ce sanctuaire antique et où il se trouve justement dans la ville d'Autricum ?
Alors on se trouve dans le quartier Saint-Brice, exactement rue des Babours, l'ancien espace des abattoirs qui a été détruit dans les années 2000. Donc on a un vestige important cultuel dans cet espace puisqu'on a un grand quadriportique, ce qu'on appelle, c'est un sanctuaire sur lequel les pèlerins viennent faire leur dévotion. Donc de 300 mètres par 200 mètres. Et puis actuellement, donc ça c'était fouillé de 2005 à 2011. Et actuellement on fouille une portion en façade de ce grand sanctuaire, plus vers la plaine sportive, les terrains de rugby, qui ont permis de découvrir donc un second bâtiment cultuel ainsi qu'un autre édifice qu'on qualifie jusqu'à présent comme étant probablement une fontaine.
Et c'est justement cette fontaine que vous allez nous présenter plus en détail aujourd'hui. Alors ce site cultuel, comme vous dites, donc lié à la religion à l'époque, était très important dans la cité d'Autricum, mais est-ce que ça permet d'en apprendre un peu plus sur les vies et pratiques de nos ancêtres gallo-romains? Qu'est-ce qu'il faut retenir de la présence d'un tel édifice dans Chartres antique?
Alors c'est un peu mitigé, enfin c'est en demi-teinte parce qu'on a des vestiges relativement importants, mais tout ce qui est manifestation du culte en fait n'a pas été vraiment mis en évidence, sauf quelques inscriptions. Donc c'est ce qui nous manque beaucoup. Donc c'est vrai que c'est souvent ces manifestations du culte sous l'objet de dépôts votifs qui vont montrer en fait l'importance de la vie, les gens qui y vivent, etc. Quoi qu'il en soit, on peut quand même dire que la présence d'un édifice de ce type et d'une grandeur aussi importante, puisque ça occupe plus de 8 hectares en totalité, montre déjà une présence de notables importants, puisque c'est eux qui vont financer en très très grande majorité aussi bien la décoration que la construction des édifices, donc il faut avoir beaucoup d'argent, et montre aussi que la ville d'Autricum est relativement importante et riche à l'époque antique.
Oui, parce que c'était la capitale de la cité des Carnutes, c'est ça ?
C'est ça, exactement.
Et chaque année, donc, comme vous le disiez, les fouilles s'étendent un petit peu. Et en 2016, donc, vous avez retrouvé les vestiges de ce que vous appelez pour le moment une fontaine monumentale. Alors sans dévoiler l'objet de la première partie de l'émission, est-ce que vous pouvez nous dire où se situe ce bassin exactement par rapport à l'ensemble des bâtiments ?
Oui, alors on est vraiment, vraiment du côté de la plaine sportive. Si on retrace un petit peu la géographie du terrain, on a le quadriportique qui est plus du côté de la rue des Babours. Enfin, en tout cas, une portion du quadriportique, puisqu'il est beaucoup plus grand que ça. Plus grand, en tout cas, que l'espace des anciens terrains des abattoirs. Donc, on se trouve plus vers l'est et en contrebas, puisque les sols de circulation de ce quadriportique sont 4 mètres plus hauts que le sol de circulation de cette fontaine. Donc, on est à peu près à une distance de la limite est de ce grand quadriportique de 120 mètres.
Et on suppose qu'il y avait beaucoup comme ça d'autres bâtiments. On était vraiment dans un quartier dédié au culte à cette époque à Autricum.
Oui, oui, oui. On a fait des prospections géophysiques en 2015, donc qui consistent à voir ce qu'il y a un petit peu dans le sous-sol en envoyant des ondes radar notamment, qui vont se répercuter soit dans des murs ou dans des creux, donc revenir de manière différente. Donc le signal sera différent. Ça nous a permis de mettre en évidence d'autres bâtiments qui se prolongent en fait du côté nord de ces édifices et qui ressemblent beaucoup à d'autres bâtiments cultuels.
Donc une ville antique étendue avec de nombreux bâtiments dans ce quartier. Alors, selon les découvertes, effectivement, vous faites appel à des spécialistes différents, on l'a vu dans d'autres émissions. En ce qui concerne cette fouille ou la fouille de la fontaine, la présence de Marjorie, donc qui est, je le rappelle, conservatrice et restauratrice au sein du service, a été nécessaire. Alors Marjorie, quel est votre métier et votre mission sur ce site ou sur cette fouille ?
Alors moi, je suis conservatrice restauratrice, plus spécifiquement pour les objets archéologiques, d'où ma présence au sein du service archéologie. Et Bruno Bazin a fait appel à moi pour prélever des objets en matériaux périssables qu'ils ont trouvés cette année dans le cadre de la fouille de la fontaine monumentale.
Donc là, vous arrivez vraiment en mission de prévention et de relever des objets fragiles.
Oui, c'est ça, parce que les matériaux périssables présentent la particularité de se dégrader très rapidement dès leur exhumation. Et dès leur découverte, il faut mettre en place un protocole de prélèvement, puis un protocole de stockage et même envisager leur étude pour savoir si on les conserve sur le long terme ou pas.
D'accord. Alors on va voir ça un peu plus longuement en deuxième partie d'émission. Et avant de rentrer donc plus en détail au cœur de notre sujet avec Bruno et Marjorie, à savoir les dernières découvertes archéologiques sur le site du sanctuaire gallo-romain, marquons une première pause musicale. Notre émission Histoire et Mémoire, aujourd'hui avec Bruno Bazin, qui est responsable des opérations archéologiques sur le site de Saint-Martin-en-Val, dans les quartiers Saint-Brice. Il est accompagné donc de Marjorie Maqueda, qui est restauratrice aussi au sein de l'équipe. Bruno, donc, on disait en introduction que vous avez découvert en 2007 une fontaine monumentale sur le site de Saint-Martin-en-Val, à proximité du sanctuaire. Alors, je le pose un peu mes questions pêle-mêle et vous répondez comme vous le sentez. Mais pourquoi une fontaine dans ce quartier ? Et quand a-t-elle pu être construite et a-t-elle une fonction particulière surtout ?
Alors, la première question est difficile à définir. On est dans un complexe cultuel, donc on a beaucoup de bâtiments, on va dire périphériques, qui sont associés aux bâtiments dédiés aux dévotions et aux cultes. Donc ça, la fontaine en fait partie. C'est-à-dire c'est un élément, on va dire presque essentiel, puisque soit on est dans un bâtiment purement ostentatoire, donc décoré, richement décoré, qui va montrer la puissance et puis des bâtiments et de la ville en même temps, et puis l'entrée en même temps dans un complexe cultuel. Soit on est dans un édifice du coup qui va être plus lié au culte cette fois-ci, dans lequel on va venir faire aussi des dévotions. Pour l'instant, on n'a pas de réponse sur ça. Il faudra attendre encore peut-être un ou deux ans avant de pouvoir répondre à ces questions. Et pour les questions suivantes dont je ne me rappelle plus.
Quand a-t-elle pu être construite ? Est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est antérieure, postérieure ou vraiment de la même époque du sanctuaire ?
Oui, en fait, au début, on pensait qu'elle était soit antérieure, soit postérieure à la construction du grand quadriportique, mais il s'avère que les éléments chronologiques qu'on a pu sortir de la fouille montrent qu'on est dans le même programme architectural, donc on a une construction autour des années 70-100 après Jésus-Christ, on est à l'époque flavienne, en fait.
D'accord. Et donc, comme vous disiez, elle peut avoir une fonction soit plutôt ornementale, soit vraiment participer au culte, mais là, il va falloir être un peu patient. Et ça, si vous avez trouvé, par exemple, qu'est-ce qui vous manquerait comme indice pour pouvoir répondre à ces questions? Trouver des objets, trouver...
Oui, c'est surtout, en fait, c'est soit des objets, soit des mises en condition d'éléments votifs. Donc ça peut être aussi un simple foyer sur lequel on a brûlé quelque chose, on a déposé des objets, on a enterré, par exemple, 2 ou 3 céramiques dans un trou... etc. Enfin, ou soit vraiment des objets de culte, c'est-à-dire des inscriptions, des statues, des dépôts votifs tels que des ex-voto en bois, par exemple, qui vont nous permettre de confirmer l'aspect plutôt cultuel du bâtiment que simplement ornemental.
Alors justement, pour s'imaginer un peu plus concrètement ce bâtiment, quelle est son architecture ou ses dimensions? Est-ce qu'on peut en faire un petit plan complet?
Alors, il est dégagé, on va dire, un peu plus de moitié jusqu'à présent, parce que ça fait 3 ans qu'on le fouille. On peut dire que dans sa largeur, il fait à peu près 18 mètres. Dans sa longueur, on ne sait pas encore exactement, mais on est au-delà des 18 mètres aussi. Donc, on arrivera à quelque chose d'assez imposant comme bâtiment. On sait également qu'à l'intérieur de cet édifice est présent un bassin d'une trentaine de mètres carrés et qu'on a probablement... étant donné qu'il est complètement décentré de l'édifice, des murs extérieurs, on va dire, de l'édifice, on a probablement un deuxième élément qui peut être un deuxième bassin qui va se trouver plus au sud, à proximité. Ces dimensions totales, pour l'instant, on ne les a pas vraiment. Voilà.
Et donc, du coup, quand on dit fontaine, c'est vraiment le terme architectural qu'il faut employer ou plutôt bassin ou...
Le bassin, c'est vraiment l'élément architectural à l'intérieur de la fontaine. Alors, la fontaine, c'est un terme qu'on emploie aujourd'hui, nous, pour qualifier des monuments antiques. À l'époque aussi, on pouvait utiliser le terme de nymphée, mais nymphée, c'est plus lié justement à des statues qui vont être honorées à l'intérieur de ce bâtiment. Donc, on pourra éventuellement rectifier le vocabulaire après
selon
les différentes découvertes qu'on fera les années prochaines.
Et lors de cette fouille, lors de l'été 2018, est-ce que vous avez fait des découvertes particulières et est-ce qu'elles confirment ou non déjà quelques hypothèses?
On a fait beaucoup de découvertes cette année, puisqu'on était dans l'objectif de définir si cette fontaine monumentale était fermée du côté est, donc c'est-à-dire du côté du cours de l'Eure, à savoir est-ce qu'on avait un accès peut-être par bateau directement à la fontaine, donc
carrément,
une ouverture complète de l'édifice de ce côté-là est fermée donc sur 3 côtés ou un édifice totalement clos. Alors il s'avère que on a mis en évidence effectivement que le bâtiment était clos de ce côté-là, donc on n'avait pas d'accès en tout cas par bateau. On a peut-être une entrée principale qu'on n'a pas encore découverte. Et puis aussi d'autres éléments d'architecture qui nous permettent de restituer au moins 3 des murs de la fontaine avec des éléments sculptés, ce qui est quand même relativement rare jusqu'à présent sur les fouilles de Saint-Martin, avec des éléments de colonnes, d'entablements, de chapiteaux. On est en train de travailler dessus. On arrive à faire une restitution assez importante et plutôt, à mon avis, proche de ce qui pouvait exister à l'époque.
Donc là, vous arrivez quasiment, à partir de ces éléments, à faire un dessin, un croquis qu'on pourrait voir prochainement, par exemple, dans un futur archéo
Il est en cours de préparation pour le rapport final qui doit être rendu très prochainement. En gros, on y travaille quasi tous les jours avec Sébastien Cormier, qui donc lui est plus spécialisé sur l'étude justement de l'architecture et des objets en pierre donc qu'on retrouve sculptés. Là, on le modifie tous les jours parce que c'est toujours compliqué, même si on a certains éléments, même si on peut prendre des mesures, même si on a des diamètres, etc., de pouvoir restituer correctement un bâtiment. Il faut toujours se mettre dans l'idée que ce qu'on restitue est toujours peut-être un peu éloigné de ce qui pouvait exister. Et puis, l'idée de la restitution et de remonter les façades nous permet de nous rendre compte également que il y a des choses qu'on avait pu estimer être de cet ordre-là, agencées de cette manière et qui ne fonctionnent absolument pas.
Quand vous essayez de refaire des plans corrects.
Ouais. Notamment, ce qui est parfois difficile, c'est la jonction des toitures, en fait, qui, là, fonctionne traditionnellement avec une jonction qui permet justement à la toiture de bien tenir. Et des fois, quand on n'a pas commencé cette restitution ou fait un dessin de l'élévation, on n'arrive pas à bien visualiser et on part dans des idées qui ne sont pas les bonnes. Donc
D'accord. C'est
toujours très important, même si on a les objets, de restituer les façades ou les monuments pour vérifier si les hypothèses qu'on émet à partir des objets qui sont sortis de la fouille fonctionnent bien dans la réalité et dans l'architecture.
Et donc justement, ces objets sortis de la fouille, quels sont-ils cette année? Vous avez parlé d'éléments type morceaux de colonnes, entablements, chapiteaux. Est-ce qu'au niveau des toitures, est-ce que d'autres éléments permettraient de savoir s'il y a des petits espaces de circulation autour de ces bassins? Comment se présentait l'intérieur du bâtiment également?
On a pu restituer donc le mur est, on sait qu'il est décoré de colonnes avec les éléments lapidaires, et on sait, donc ça c'est une découverte tout à fait rarissime, et j'insiste sur le terme puisque même nous on commence à prendre vraiment l'ampleur de cette découverte, mais sur le coup bon, on a bien compris que c'était quelque chose d'important. Au fur et à mesure des recherches bibliographiques après la fouille, on se rend compte que c'est vraiment un élément très très rare. Les comparaisons, il n'en existe qu'une, et qui est de moindre mesure, on va dire, que celle qui vient d'être découverte à Chartres. On a aussi découvert donc des éléments de bois sur lesquels Marjorie a travaillé, sur lesquels elle parlait, qui sont en fait des décors sculptés qui viennent prendre place sous la toiture, sous une petite coursive probablement, qui sont des éléments de faux plafond en fait. Ils ont brûlé. Pour la plupart, on n'a que quelques éléments, on ne les a pas tous, puisqu'il y en a beaucoup dont la combustion a fait disparaître l'ensemble de l'objet. Mais on a des éléments qui sont relativement bien conservés, ce qui est une première en fait sur l'ensemble du monde romain, puisque la seule comparaison qu'on a actuellement, c'est Herculanum, sur lequel, la villa du relief de Téléphus. Donc, ils ont trouvé une charpente soufflée par l'éruption volcanique du Vésuve. Associé à quelques éléments de faux plafonds, comme ça. Sauf que ces faux plafonds-là, qui sont très beaux aussi, sont réalisés avec des petits éléments de marqueterie, on va dire, qui viennent se fixer avec des chevilles sur des planches en bois et former des décors géométriques. Nous, ici, ce qu'on a sur les faux plafonds, ce sont des assemblages de planches, de poutres, qui forment des encorbellements et qui dessinent, en fait, des motifs qu'on retrouve sur l'architecture, c'est-à-dire sur les blocs lapidaires de colonnes, de bases de colonnes, etc., d'entablements.
Ce sont des morceaux de bois donc plus massifs, entre guillemets, que la tabletterie qui a pu être redécouverte en Italie.
À Herculanum, ouais. C'est ça? Oui, oui, ils sont plus fins, en fait, ils sont beaucoup plus beaux que ceux qui sont à Herculanum, même si ceux d'Herculanum sont déjà une découverte exceptionnelle pour le monde romain.
D'accord. Du coup, Bruno, est-ce que l'on sait, à la suite, combien de temps cette fontaine, on va la nommer ainsi, a perduré dans le temps? Combien de temps elle a été utilisée par les habitants d'Autricum?
Relativement longtemps par rapport aux autres édifices, puisque on sait par la fouille archéologique, par les couches qui sont encore présentes, que le bâtiment a été abandonné à une certaine période, recouvert de lierre, avant d'être totalement récupéré. Traditionnellement, les autres édifices sur le complexe de Saint-Martin sont abandonnés vers la fin du IIIe siècle. Déjà, une période relativement tôt par rapport aux autres édifices qu'on connaît en Gaule romaine, de même type. Là, on arrive sur la fontaine à un abandon vers la fin du IVe siècle. Ça veut dire que probablement, même si la chronologie est encore assez ténue, puisqu'on a très peu de mobilier, on a un édifice qui va fonctionner plus longtemps que les autres qui sont à proximité. Donc il y a une raison, pour l'instant on ne peut pas expliquer, on n'a pas découvert pourquoi, mais il y a une raison que cet édifice est encore en fonction plus tardivement que les autres bâtiments qu'on a pu fouiller.
Et ça, c'est toujours dans la logique et dans la perspective des futures fouilles que vous pourrez nous apporter ces réponses. Donc on se reverra, j'espère, bientôt, Bruno, dans l'année prochaine, pour parler de la fontaine. Merci en tout cas pour ce premier point. On va faire une seconde pause musicale avant de poursuivre l'émission, qui est donc, je le rappelle, consacrée aux dernières découvertes sur le site antique de Saint-Martin-en-Val. Et nous dialoguerons du coup avec Marjorie Maqueda, pour en savoir plus sur ces éléments d'architecture que Bruno a évoqués, à savoir des éléments fragiles tels que le bois.
Run away, you gladly, brand new anger. se fâche.
Où nous reprenons notre émission Histoire et Mémoire consacrée donc aujourd'hui aux dernières découvertes sur le site gallo-romain de Saint-Martin-en-Val dans le quartier Saint-Brice. Nous sommes avec Bruno Bazin qui nous a rappelé et expliqué la présence de cette fontaine monumentale auprès du sanctuaire en première partie d'émission. Et maintenant nous allons faire avec Marjorie un zoom sur les matériaux ou éléments d'architecture qui ont nécessité votre intervention, Marjorie. Et je le rappelle, vous êtes conservatrice restauratrice au sein de la direction de l'archéologie. Oui, pouvez-vous donc nous en dire plus ? Pourquoi et comment êtes-vous intervenue lors de cette fouille ?
Alors, moi, je suis intervenue sur cette fouille déjà il y a 2 ans, parce qu'il y a 2 ans, il y avait déjà eu des bois qui avaient été trouvés lors de la fouille de la fontaine monumentale. Mais cette année, l'avancée des fouilles ont mis en évidence une quantité importante de bois. De bois gorgé d'eau notamment, puisque cette fontaine se situe sous le niveau d'apparition de la nappe phréatique. Donc on a affaire en conservation à un milieu lacustre, enfin c'est l'équivalent d'un milieu lacustre, donc des objets constamment gorgés d'eau.
Et qu'est-ce qui se passerait du coup si vous les sortiez de l'eau telle quelle ? Quels seraient les risques pour ces vestiges ?
Ah ben, alors pour certains, rien. Enfin, comme le lapidaire peut sécher relativement bien, bon après il faut quand même faire attention à certains éclatements, mais effectivement il y a des objets plus fragiles que d'autres. Disons que sans intervention de conservation, ces objets risquent de se dégrader davantage et on n'en obtiendrait rien du tout.
Oui, parce que l'idée c'est quand même de lire, entre guillemets, ces objets. Et du coup, qu'est-ce que vous avez déjà pu découvrir sur ces bois ? Est-ce qu'il y a des premiers indices ? Je ne sais pas.
Alors déjà, lors de la fouille elle-même, puisqu'ils sont tombés sur le sol d'allée de la fontaine monumentale, pour certaines pièces suffisamment bien étalées pour qu'on arrive à voir les poutres et puis les décors que ces poutres portaient. Comme Bruno l'a rappelé, c'est des éléments d'un faux plafond. Aujourd'hui, l'équipe de fouille travaille à sa restitution, en partie, puisque une partie des éléments est aujourd'hui hors des locaux du service archéologie et partie en restauration dans un laboratoire à Grenoble. Mais toujours est-il que les études qui sont menées sur les pièces restantes au service archéologie font l'objet d'une étude pour le rapport qui doit être rendu prochainement et on a pu constater des décors c'est vrai très fins, ciselés, c'est un vrai travail d'ébéniste. On a affaire à des raies de cœur.
D'accord.
Donc les raies de cœur, c'est un enchevêtrement, enfin, pas un enchevêtrement, c'est une suite de feuilles qui prennent la forme d'un cœur, séparées par des fers de lance. Donc
c'est un décor très fin.
C'est un décor fin, mais qu'on retrouve dans l'Antiquité, même sur ce que Bruno a rappelé tout à l'heure, hein, sur le lapidaire ou sur voilà, il y a rien, il y a, je peux pas dire qu'il y a rien de nouveau, mais voilà. Disons, par contre, le travail est effectivement très très fin, c'est du beau travail d'ébéniste. Ouais.
Et sur les enduits peints, donc qui étaient donc les décors muraux hein, de l'édifice.
Oui. Alors les enduits peints, eux, c'est déjà plus difficile d'en dire quelque chose parce que déjà l'intégralité a pas été fouillée. Leur séjour dans l'eau ne leur a pas été profitable. Les peintures, bien que réalisées aussi avec beaucoup de savoir-faire, ont été lessivées. Donc les couleurs sont un peu passées.
Néanmoins, est-ce qu'il y a quand même quelques couleurs qui ressortent ?
Oui, oui, il y a des couleurs qui ressortent. Il y a du, mais disons que il y a du bleu, il y a beaucoup de vert, il y a un peu de jaune. On constate des couleurs assez, qu'on retrouve dans des peintures d'un niveau social assez, riche en fait. Donc des couleurs pêche, des bleus, notamment rehaussés. Avec des gros pigments en fait qui pourraient faire penser à ce qu'on appelle par chez nous le lapis lazuli, mais je sais que c'est pas ça, mais disons que ça fait des effets, des imitations,
de matière.
Mais c'est ça, donc ça fait des effets qui devaient accrocher le regard à l'époque. Voilà, on peut penser qu'il devait y avoir des personnages. Et notamment un jeu de, enfin du, un fond vert qui rappelle des scènes dans un décor végétalisé quoi. Après, on peut pas en dire plus pour le moment. L'étude est vraiment pas du tout avancée là-dessus.
D'accord. Bah merci Marjorie déjà pour ces premiers éléments. Du coup, Bruno, ces différents éléments de décor que Marjorie a évoqués, des feuilles, peut-être des personnages. Est-ce que ça, c'est courant pour l'époque et est-ce que ces décors avaient une vocation particulière, outre que simplement esthétique?
Non, esthétique. Il n'y a pas d'autre vocation, en fait. Ils sont là vraiment pour enrichir encore plus le décor lapidaire, le rehausser. Là, il n'y a pas de... On n'a pas... Alors, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de motif particulier qui pourrait nous faire dire qu'ils ont une fonction voilà, plus visuelle, représentation de dieux, déesses,
oui,
ou d'objets
en
association
en fait,
avec des
ouais.
dieux et déesses. Non, c'est vraiment juste des représentations qu'on retrouve dans l'architecture, des motifs architecturaux. Ils ont une vocation décorative pour enrichir encore plus le décor. Sachant qu'il faut bien voir qu'à l'époque antique, le lapidaire, c'est très courant. Et le bois aussi, hein, c'est pas... Nous, pour nous, c'est... Comme dit Marjorie, c'est exceptionnel parce que la conservation du bois est très très rare hein, pour n'importe quelle période d'ailleurs. Faut des conditions particulières, hein, des conditions en eau ou très sec. Donc là, c'est ce qui a fait qu'ils étaient conservés, mais ça existe. Ça existe à l'époque antique. Il ne faut pas se dire que quand je dis découverte exceptionnelle, c'est pour nous. Mais à l'époque antique, c'est courant qu'on ait aussi des plafonds en bois, des charpentes, etc.
C'est ça, c'est qu'en fait, dans notre milieu tempéré, les objets en matériaux périssables se trouvent très rarement. Là, on a eu la chance, enfin disons que la nappe phréatique, même si elle dégrade ces pièces, a permis de conserver ces bois.
Et
Bruno l'a évoqué tout à l'heure, le bâtiment a brûlé. Les flammes sont passées sur ces poutres, soit en léchant leur surface, soit en carbonisant vraiment les pièces, certaines pièces. Et de ce fait, ces pièces-là ont été aussi à l'abri des micro-organismes. Ça, voilà. Donc, ce double phénomène d'être à l'abri des micro-organismes,
oui, ont été des facteurs de conservation malgré eux.
Voilà, tout à fait. Sauf que une fois qu'ils sont sortis de l'eau, pour le coup, avec le séchage par l'air, en fait, il faut vraiment faire attention, les conserver dans un milieu humide jusqu'à...
Pour les préserver au maximum.
C'est ça.
Et puis, juste je rajoute une petite chose, faut pas oublier qu'à l'époque aussi, à l'abandon du bâtiment, il y a des phases d'inondation. Donc ça a préservé assez vite les objets.
Qui étaient sur place. Eh bien, merci beaucoup Bruno, merci beaucoup Marjorie pour cet éclairage nouveau sur cette fontaine et sur, du coup, les différents bâtiments du site de Saint-Martin-en-Val. Vous pouvez réécouter l'émission sur le site archéologie.chartres.fr et puis aussi découvrir davantage le métier de Marjorie et son intervention sur le terrain dans le magazine Votre Ville de novembre. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à très bientôt dans votre émission Histoire et Mémoire.